France Inter, le 18-20.
La réforme de l'assurance chômage qui a été dévoilée la semaine dernière, c'est le nouveau grand chantier, juste avant celui des retraites d'ailleurs. On y trouve des choses qu'on savait déjà mais qui vont désormais être dans le quotidien des demandeurs d'emploi, une plus grande dégressivité, même si les démissionnaires désormais ont droit aux allocations chômage, un montant qui varie puisqu'il est calculé en fonction du salaire mensuel moyen, quel que soit le nombre de jours travaillés. Ça concerne par exemple ceux qui enchaînent les petits contrats et les périodes de chômage. Le temps de travail par ailleurs qui déclenchera le droit au chômage est désormais différent. Et en face, il y a ce fameux bonus-malus pour pousser les entreprises à ne pas avoir recours au CDD. Ça concerne 7 secteurs. 7 secteurs seulement, disent les uns. 7 secteurs quand même, disent les autres. Au fond, la question sous-jacente à laquelle on essaiera de répondre, c'est est-ce que ces mesures sont un bon moyen de retour à l'emploi? Parce que c'est censé être ça, le but du jeu. Est-ce que ça aidera ceux qui ont des difficultés à retrouver du travail? Est-ce que c'est ce qui permettra d'endiguer notamment le chômage longue durée? La discussion est lancée. Elle est ouverte et soyez les bienvenus.
Fabienne Sinter. Le téléphone sonne.
Fabien, c'est vous qui commencez, soyez le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Fabien.
Bonsoir. Écoutez, je voulais faire témoigner parce que je suis un cadre de 50 ans. Ça fait 25 ans que je cotise donc à l'assurance chômage. En prenant des risques, en ayant changé plusieurs fois de société. Et d'ailleurs, je sors d'une période d'essai actuellement. Et là, avec les nouvelles mesures qui sont prises, vu mon âge avancé, le risque de chômage se fait plus grand et l'indemnisation va baisser au bout de 6 mois, ce qui est pour moi un risque accru. Donc ça encourage pas du tout à la flexibilité et à prendre des risques. Donc je trouve que c'est une mesure qui est vraiment pas du tout adaptée.
Vous, concrètement, Fabien, est-ce que ça vous fait réfléchir à votre évolution de carrière? Parce que vous le disiez, vous avez changé de boîte souvent, donc vous le disiez, vous avez pris des risques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, il faut que je me trouve la dernière, en quelque sorte, en fait, à l'âge que j'ai aujourd'hui?
Ah ben clairement, là, maintenant, je cherche... Alors, c'est pas que lié à l'indemnisation du chômage, mais c'est un facteur clé, parce que arrivé à la cinquantaine, c'est l'âge où les enfants rentrent dans les études, on a des emprunts immobiliers à payer... Et donc un changement de revenu brutal au bout de 6 mois, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, même si le taux d'emploi des cadres est très élevé, au-delà de 50 ans, c'est pas si simple que ça. Et on peut rester, moi j'en connais beaucoup des amis, des collègues qui mettent un an ou plus à trouver un poste, voire plus longtemps.
Merci beaucoup Fabien pour ce témoignage et pour cette entrée en matière donc qui nous permettra d'entrer de plein pied dans ce sujet pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Je commence avec vous Jean-Yves Duménil parce que c'est vous qui répondrez directement à la question de Fabien. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, et bonsoir à vous Claire Hédon.
Bonsoir.
Vous êtes présidente d'ATD Quart Monde, vous êtes ATD Quart Monde à être à l'initiative des fameux dispositifs territoire zéro chômeur dont on aura l'occasion de parler parce que déjà on voit beaucoup de mails descendre dans cette direction-là. Jean-Yves Duménil, pour répondre à la question de Fabien, effectivement, qui a le sentiment, lui, qu'au fond, on est en train de le freiner, en fait, parce qu'il a une épée de Damoclès qu'il n'avait pas autrefois et qu'il a désormais avec ce nouveau texte.
Mais écoutez, je partage son avis, c'est-à-dire qu'effectivement, cette mesure, elle cible une catégorie en particulier de la population. On ne sait pas bien pourquoi. Ce sont des gens qui, effectivement, gagnent bien leur vie et quand ils ont un accident de carrière, ils avaient donc une indemnité très importante, mais ça correspondait à des cotisations qui étaient versées côté entreprise. Et d'ailleurs, je vous ferai observer que cette diminution de l'allocation, elle n'est pas suivie d'une diminution de cotisation côté entreprise. Et puis, c'est pas logique non plus. C'est-à-dire que l'argument qui est mis en avant, c'est de dire, ce sont des métiers, enfin des catégories de population dans lesquelles on est quasiment en plein emploi. Mais à ce moment-là, ce que nous disions, nous, à la CPME, c'est pourquoi est-ce que pour les métiers en tension, où là aussi il n'y a pas de chômage, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les mêmes règles? Donc c'est pas normal de cibler simplement une catégorie de population. Et puis ce qui a été dit est exact, c'est effectivement ça entraînera sans doute des changements de comportement.
Donc, surtout en fin de carrière quand on a l'âge de Fabien, mais votre interrogation sur pourquoi, moi j'ai l'impression de la connaître, c'est parce qu'on a le sentiment, et je ne sais pas à tort ou à raison, et je ne sais pas s'il y a des chiffres pour étayer ça, que certains cadres en profitaient pour toucher une assurance chômage sans aller chercher de l'emploi, mais je ne sais absolument pas sur quel genre de chiffres ce genre de comportement...
Il y a toujours quelques exemples qui étaient mis en avant, mais très franchement, de dire qu'un cadre aujourd'hui à 55 ans retrouve un emploi en claquant dans les doigts, surtout s'il a un salaire important, je ne pense pas que ce soit la réalité de ce que vivent un très grand nombre de demandeurs d'emploi quand ils ont des salaires élevés. Et puis ce qui a été dit est exact, c'est-à-dire que quand vous avez ces âges-là, vous avez aussi des frais importants, vous êtes à une période de votre vie, vous avez des enfants qui font des études, et vous pointez du doigt en considérant que vous abusez par définition, c'est pas quelque chose qui nous convient.
C'est pas votre population, Claire Hédon, ce genre de cadre comme Fabien, mais en revanche, on va écouter Caroline. Bonsoir, Caroline.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, alors je suis frappée par ce phénomène que aujourd'hui les entreprises modernes, les institutions publiques, se réclament de la responsabilité sociale des entreprises pour mettre en avant une nouvelle manière de travailler, un autre mode de gouvernance. On reconnaît qu'on obtient de meilleurs résultats quand les salariés sont employés pour des missions qui correspondent à leurs attentes. Est-ce que cette évolution de la société ne concerne que les jeunes cadres ambitieux ? Est-ce qu'il n'est pas contradictoire d'entendre que des personnes privées d'emploi doivent accepter, quel que soit leur parcours, n'importe quel type d'emploi qui peut aboutir à une impasse tant pour l'employeur que pour le salarié ? Voilà, donc pour moi, le recrutement sur des profils standards, moi j'ai aussi, je suis aussi entre 50 et 60, hein, j'ai eu des grandes périodes de chômage. Le recrutement sur des profils standards ne correspond pas aux exigences de développement qualitatif dont parle la société. Ce ne sont pas les chômeurs qui ne sont pas bons, c'est l'emploi qui est inadapté à la société.
Merci Caroline pour cette remarque. C'est plutôt pour vous ça, Claire Hédon, ce sentiment qui a l'air assez général au fond, qu'on va devoir désormais accepter n'importe quel type de travail, sinon on va perdre les droits au chômage. C'est des choses que vous entendez beaucoup chez vous,
j'imagine. J'aime bien ce qui vient d'être dit, c'est pas les chômeurs qui sont pas bons, c'est l'entreprise et l'emploi. Et évidemment, nous on est assez inquiets avec ce qui se passe, parce que le but quand même, c'est d'éradiquer la grande pauvreté. C'est ce qu'a annoncé le président de la République au moment du plan pauvreté en septembre. Franchement, des décisions comme celle-là qui vont précariser les plus précaires, justement, ça va dans le sens d'augmenter la pauvreté. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui n'ont pas les 6 mois dans les 24 mois ? Ben, elles vont être au RSA.
Alors, les 6 mois dans les 24 mois, pour expliquer, c'est que désormais, l'ouverture à droit commence à 6 mois alors qu'elle ouvrait
autrefois
sur une période de 24 mois alors que c'était 4 mois sur une période de 28 mois.
Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui n'ont pas ça ? Alors qu'avant, ils touchaient le chômage, ils vont être au RSA. Enfin, je veux dire, donc, on augmente, on fait des trappes à pauvreté, on augmente la pauvreté au lieu de la diminuer. Donc, honnêtement, pour nous, ça ne va pas dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu que ce soit l'UNEDIC qui paye, ça va être du coup la CAF, la Caisse d'allocation familiale pour le RSA. De toutes les manières, ça coûte à l'État.
Et là, on parle de qui, en fait, exactement ? On parle des gens qui enchaînent des petits boulots avec des périodes de chômage ? On parle de cette population-là ?
C'est exactement ça. On parle de population qui n'arrive pas à trouver des CDI et qui enchaînent, entre guillemets, les petits boulots avec des périodes de travail et puis des périodes de chômage. Et c'est pas un choix, parce que qu'est-ce qu'on renvoie ? Mais à peu près la même chose que ce que vous disiez sur les cadres. On renvoie l'idée que
c'est pour ça que je trouve ça intéressant au fond, parce qu'on ne parle pas du tout de la même population, mais on dit à peu près la même chose.
On porte le même regard sur des gens qui ont juste qu'une envie, c'est de travailler, parce que moi je suis désolée, je suis avec des personnes qui veulent travailler parce que c'est le seul moyen d'être inséré dans la société, et parce que, deuxième idée totalement préconçue, on vit quand même nettement mieux au SMIC qu'au RSA. Les minima sociaux, enfin je veux dire, imaginez-vous vivre avec 550 euros APL compris, c'est 480 sans les APL, sans les aides au logement, c'est excessivement difficile de vivre avec ça. Donc les personnes veulent travailler. Si elles enchaînent des contrats courts et des périodes de chômage, ce n'est pas un choix. Elles voudraient pouvoir travailler, mais elles n'y arrivent pas. Et les entreprises, voilà, ne jouent pas forcément le jeu sur des CDI.
Jean-Luc Dumini,
je pense malheureusement que les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire que, vous avez raison, la plupart des gens qui sont au chômage, effectivement, ne rêvent que de travailler. Ceci étant dit, on connaît aussi, et nous on le voit du côté des PME, des situations qui font hurler des chefs d'entreprise parce qu'ils cherchent à recruter en CDI. C'est le cas par exemple des services à la personne. Et ils ont un mal fou. Ils trouvent des gens qui veulent des CDD parce que ils veulent avoir une certaine souplesse. Et effectivement, ils ont un système d'indemnisation aujourd'hui qui est dans certains cas plus favorable qu'en CDI.
Est-ce que ça dit donc majorité, en fait, ou
non,
est-ce que ça dit cas particulier ?
Non,
est-ce que
mais,
ça dit
mais...
situation particulière à un instant T ?
Oui, vous avez raison, en fait. Mais pas simplement quand même, parce que le dispositif tel qu'il est aujourd'hui peut favoriser ce type de comportement, encore une fois, avec des gens qui ne cherchent pas à frauder, simplement ils utilisent les possibilités. Je vais vous prendre un exemple très concret. Nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise des PME qui nous disent qu'ils ont des salariés qui sont en CDD, Et à la fin du CDD, le chef d'entreprise propose un CDI. Et il arrive régulièrement aujourd'hui que la personne en CDD refuse le CDI et choisisse de s'inscrire à Pôle emploi. Est-ce qu'on peut considérer dans ces cas-là cette personne comme étant demandeur d'emploi et l'indemniser? On peut quand même se poser la question.
Et la raison invoquée, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est pas simplement « je préfère parce que c'est plus simple pour moi », il y a quand même une raison qui est invoquée derrière. Quelle est-elle en général?
Oui, mais dans certains cas, je vous assure qu'on a des témoignages de gens où c'est effectivement un choix, parce qu'ils considèrent que ça leur offre davantage de souplesse de faire ce choix de CDD et que dans les conditions d'indemnisation actuelles, dans certains cas, ça peut être tout simplement plus avantageux. Je ne veux pas dire que c'est la totalité,
mais c'est
quelque chose qu'on rencontre et qu'on connaît.
Parce que c'est probablement infime. Je ne dis pas que ça n'arrive
mais
pas.
C'est
comme l'histoire des emplois non pourvus. Les emplois non pourvus, c'est une réalité. Entre 250 et 300 000 emplois non pourvus, qui est un vrai problème, qui pose beaucoup de problèmes de la question de la formation et de l'adéquation de la formation aux emplois. Mais comparé aux 3,5 millions de chômeurs, excusez-moi, ça ne va pas résoudre la question du chômage dans son ensemble, même s'il faut résoudre cette question-là. Je ne dis pas que la question des emplois non pourvus n'est pas un problème. Il faut résoudre cette question-là. Mais on ne peut pas nous renvoyer en permanence cette question des emplois non pourvus et en faire une généralité du « les gens ne veulent pas travailler ». Ce que je dis, c'est que c'est insupportable pour les gens qui sont au chômage depuis des années d'entendre qu'ils ne veulent pas travailler alors qu'ils ne voudraient qu'une seule chose, c'est travailler. Nous, avec cette expérimentation, je sais que vous allez vouloir y venir après, ouais. Territoire zéro chômeur de longue durée, on a montré que les personnes veulent travailler. Les gens n'ont pas refusé de rentrer dans l'entreprise à partir du moment où ils avaient cette possibilité-là. Donc, nous, ce qu'on constate sur 10 territoires, c'est exactement l'inverse. Les personnes veulent travailler. Et là, c'est étude à l'appui.
Vous avez raison. Ceci étant dit, je vous assure que du côté des chefs d'entreprise, c'est insupportable aussi de chercher à recruter, de passer des offres d'emploi et de ne pas avoir de réponse alors qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui sont indemnisées. Aujourd'hui, vous avez une entreprise sur deux qui rencontre des difficultés pour recruter avec 3 millions de personnes indemnisées. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas.
Mais est-ce que
on
ne
peut
ce
pas
sera
simplement
plus facile...
traiter ça comme l'épaisseur du trait.
Mais Jean-Yves Duminil, est-ce que ce sera plus facile pour un patron d'une petite entreprise d'obliger quelqu'un au fond à signer le CDD, au lieu du CDD,
ou avoir finalement dans
une entreprise quelqu'un qui a été sorti de Pôle emploi en disant c'est là l'emploi? Est-ce que ça va réellement aider en fait?
C'est simplement qu'aujourd'hui, il y a des possibilités qui existent. Et peut-être effectivement que dans certains cas, il faut avoir des dispositifs qui soient plus incitatifs. Mmh. Il faut évidemment accompagner les demandeurs d'emploi pour les aider à retrouver un emploi, les former, les prendre en main, les prendre en main pour traverser la rue, pour paraphraser quelqu'un de célèbre. Mmh. Ça c'est effectivement des choses qu'il faut faire. Mais on peut pas simplement se dire que tout le monde, tous les gens, les 3 millions de personnes sont en grande difficulté. On a un système qui a été calibré pour une période de récession économique. On n'est plus en récession économique aujourd'hui, donc c'est normal de revoir un certain nombre de paramètres.
Juste quelques chiffres, quand même 50% des allocataires touchent moins de 860 euros net par mois. On est en dessous du seuil de pauvreté avec ça. Et 40% des personnes qui touchent une allocation chômage et qui travaillent aussi donc par intermittence sont dans des familles en situation de pauvreté. Donc, je veux dire, on s'attaque quand même avec quelque chose comme ça aux plus précaires et aux plus pauvres. Moi, je reviens à une seule chose. Est-ce que l'objectif, c'est d'augmenter la pauvreté ou c'est de la diminuer? Ça donne l'impression de continuer à augmenter la pauvreté. On pourra faire tous les plans pauvreté de la Terre. Si en parallèle, on prend des décisions comme celle-là qui augmentent la pauvreté, mais franchement, ça ne sert à rien de faire des plans pauvreté.
Mais bien sûr qu'il faut s'attaquer à la pauvreté, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que réellement, les politiques d'emploi, quand on parle des entreprises, est-ce que les deux sujets sont exactement les mêmes? Probablement pas. Oui, il faut s'attaquer à la pauvreté et oui, également, il faut s'attaquer au sujet des offres d'emploi non pourvues. Il faut évidemment agir sur les deux volets.
Redis les chiffres.
Et les deux
250,
ne sont pas
300
simplement,
en face de 3,5 millions.
Simplement les deux.
On est sur du 10%.
Voilà. C'est beaucoup, 10%. Si on avait 300 000 personnes qui effectivement trouvent un emploi demain. Oui, mais il y a là aussi, on a des solutions, il y a des choses à proposer.
Dans ces emplois, on le sait, pour être allé voir à Pôle emploi, vous avez des offres de 2 heures de ménage à 50 km. Donc, il y a aussi des offres qui ne sont pas décentes.
Eh bien, écoutez, sur la mobilité, je vais vous prendre un exemple vécu. Une entreprise qui se trouve dans les Deux-Sèvres, qui est une filiale d'un équipementier automobile. Cette entreprise devait fermer un atelier. 50 personnes étaient concernées. Les 50 personnes, on leur a proposé un emploi à Angers. Angers, c'est 70 km à peu près. Est-ce que vous savez combien de personnes ont relevé le gant et ont accepté de suivre?
J'imagine une grande majorité.
Deux.
Deux
personnes sur 50.
Mais 70 km, vous faites comment?
Mais je dis pas ça, mais comprenez quand même que du côté de l'entreprise, il y a quand même un sujet. C'est-à-dire qu'après, quand on vous dit vous êtes un esclavagiste parce que vous avez mis 48 personnes sur le chef d'entreprise, dit mais attendez, moi je leur ai proposé un emploi. Eh bien, c'est là où faut les accompagner précisément. Nous, on propose quelque chose depuis longtemps, on n'arrive pas à être entendu. C'est un crédit relais à taux zéro en cas de mobilité professionnelle subie. On sait très bien que les gens s'endettent pour acheter leur habitation, et quand ils doivent le vendre brutalement pour déménager, c'est un frein à la mobilité. Eh bien, accompagnons-les là-dessus. Oui, il y a des choses
à faire. Ou acheter une voiture, dépenser de l'essence, enfin, les frais qui accompagnent cette mobilité-là, on n'est pas obligé de déménager dans ces moments-là, mais effectivement, 70 km. Après, c'est vrai que c'est toujours très compliqué, mais 70 km, c'est 7 et 7, 14, donc l'aller-retour, ça commence à faire beaucoup de kilomètres.
C'est beaucoup, mais on peut accompagner les gens, c'est là où on peut leur tenir la main, précisément.
Il y a une sortie d'école, il n'y a pas une sortie d'école, est-ce qu'il vaut mieux lâcher le boulot du monsieur qui lui travaille à côté, qui ira chercher les gamins. Est-ce qu'on va favoriser plutôt le boulot de la dame, mais à 70 km, ce sera plus difficile.
Vous avez raison, mais mettez-vous du côté du chef d'entreprise et comprenez son raisonnement de l'autre côté. C'est-à-dire que lui, quand il voit ça, il dit « Moi, je fais tout pour reprendre les 50 salariés. » Résultat, il y en a 2 sur 50. Il y a un sujet.
Ouais, j'entends ce que vous dites et j'imagine aussi, malgré tout, que dans les familles, quelque chose qui peut paraître très simple à certains d'entre nous ou à vous peut être une montagne.
Pour certaines familles. Proposer un emploi à 70 km. Voilà. Je pense qu'on peut
Non, mais attendez, si vous voulez un emploi à 2 km, alors mais là, non, effectivement,
ça dépend des endroits, ça dépend des secteurs,
mais ça peut être compliqué.
Ça peut être compliqué. Et en même temps, bon, à un moment, effectivement, c'est difficile. Dans un tout petit rayon, c'est sûrement difficile. Allez, je voudrais qu'on enchaîne avec le standard. Bonsoir, Françoise.
Bonsoir.
Vous êtes la bienvenue, Françoise. On vous écoute.
Je voulais apporter un témoignage et votre émission me passionne. J'ai travaillé 25 ans dans l'insertion, je suis à la retraite, et dans la communauté de communes dont je dépends, communauté de communes du Bocage Bourbonnais, en zone très rurale, nous avons mis en route une action territoire zéro chômeur longue durée, et je vois la passion que les personnes qui sont au chômage depuis un an, 10 ans, même plus, mettent à retourner au travail, à s'investir dans même le travail des autres. Il y a des équipes qui se forment, il y a du soutien, de covoiturage des uns avec les autres. On voit ces personnes mettre un enthousiasme fou pour aller au travail.
Soutien, covoiturage, c'est ça qui fera faire les fameux 70 km par exemple. Merci beaucoup pour votre témoignage, Françoise. Claire Hédon, au fond, la clé, c'est quoi, en fait? Ce que vous expérimentez dans vos fameux territoires zéro chômeur, la clé pour...
Le point de départ, c'est le chômage de longue durée coûte 43 milliards d'euros à l'État tous les ans. C'est à peu près 18 000 euros par personne. C'est évidemment pas ce que la personne reçoit. Il y a un tiers de minima sociaux, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes d'impôts, de taxes, de cotisations, et un tiers de dépenses à plus long terme dans lequel il y a la santé et l'éducation des enfants. L'idée a tout simplement été créons sur des petits territoires, 5 000 à 10 000 habitants, des entreprises à but d'emploi qui vont embaucher l'ensemble des chômeurs de longue durée pour des travaux utiles à la société qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Parce que on manque d'emploi, mais on manque pas de travail. On voit bien sur les territoires, vous avez parlé de la question du déplacement, la question de l'aide à la personne, tous les travaux dans le domaine de la protection de l'environnement, que ce soit du maraîchage, du diagnostic énergétique pour des populations défavorisées, ces entreprises, elles proposent ces emplois-là et ces travaux, et il y a un comité local qui est garant que cette entreprise ne prend pas d'emploi dans le secteur marchand. Et dans ce comité, il y a à la fois les élus locaux, les syndicats, les associations, les artisans, les commerçants, les petites entreprises. Et du coup, ça crée, c'est exactement ce que disait cette auditrice tout à l'heure, ça crée une cohésion sur un territoire. Et qu'est-ce que nous disent les personnes qui ont été embauchées? Ça change ma vie de travailler. D'abord parce que je vis beaucoup mieux au SMIC, le regard sur moi a changé et j'ai l'impression d'un seul coup d'être utile.
Jean-Yves Dominil, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer pour vous, forcément des expériences comme celle-là?
D'abord, c'est une expérience qui est extrêmement intéressante et qui va vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire que non seulement on redonne un salaire aux personnes, mais on leur redonne une dignité par le travail également. Donc franchement, c'est des initiatives qu'il faut encourager et qu'on soutient côté CPME. Donc oui, c'est un exemple à suivre. Après, il y a des choses que nous, on professe, qui vont un peu dans le même sens. Il y a un terme qui est un peu barbare, qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Ça consiste à identifier un emploi non pourvu et ensuite à former une compétence. Donc on est un peu dans la même logique, même si nous, on est clairement dans le secteur marchand. Donc on peut faire des choses, on ne doit pas simplement être passif et attendre simplement que les choses viennent de l'extérieur. On peut aussi se prendre en main, on peut comme vous le faites et comme on essaie de le faire dans les petites boîtes.
Et là, il y a 10 territoires qui ont démarré depuis
2017. Que vous allez augmenter ?
Bah oui, enfin, c'est ce qu'on nous a annoncé dans le plan pauvreté, on ne voit toujours rien. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours pas, on a rencontré Richard Ferrand la semaine dernière, rien n'est prévu en termes d'une nouvelle loi. Quand, et là, il commence à y avoir urgence. Autant on disait, il fallait laisser le temps de faire une première évaluation, de voir quelles sont les choses à améliorer, parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de choses à améliorer. Mais là, le temps qu'il y ait une loi, les décrets d'application et que les entreprises puissent être créées, là, maintenant, il y a urgence. Et on ne voit rien de prévu. On nous dit, mais si, ça viendra. Le ça viendra ne vient pas.
C'est une question juste pour vous, qui vient d'Éric sur Internet, Monsieur Duménil, qui dit « Votre intervenant ne connaît pas la vraie vie. Les CDI proposés derrière un CDD sont souvent refusés par les employés parce que les rémunérations proposées en CDI sont bien en deçà de ce qui est payé en CDD. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que dit Éric ?
Est-ce qu'on est mieux payé en CDD ? C'est exactement ce que je disais. Il a parfaitement raison, ce qui montre d'ailleurs que je connais la vraie vie. Mais c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que dans certains cas, c'est plus intéressant de rester en CDD, c'est ce que vient de dire cet auditeur, plutôt que d'accepter un CDI.
Mais est-ce que justement,
eh bien, si
le problème...
lui trouve ça normal, moi je suis désolé, mais je trouve ça anormal.
Mais du coup, s'il conserve le CDD, il sera mieux payé qu'avec le CDI, et donc
il peut pas mettre en avant la précarité. Il peut pas mettre en avant d'un côté la précarité et de l'autre côté dire que finalement c'est son choix. Si c'est son choix, à ce moment-là, il faut l'assumer. Mais on peut pas vouloir tout et son contraire. Mmh. Et ce que nous avions nous proposé précisément pour essayer de regarder comment mettre fin à cette inflation de contrats courts, c'était de moduler la prime de précarité. C'était justement ça, c'était de se dire, eh bien pour les gens qui sont sur des contrats plus courts, on augmenterait la prime de précarité et elle irait en diminuant en fonction de la durée du contrat. C'était quelque chose de simple, qui ne coûtait pas davantage aux entreprises, et par contre qui visait pas simplement un rendement budgétaire ou à taxer, à pénaliser les entreprises qui créent de l'emploi.
Et alors, pardonnez-moi de se poser la question naïve qui s'impose derrière, mais enfin la solution, ce serait que le CDI rapporte autant que le CDD, et auquel cas, le CDI, les gens le prendraient. Si c'était pas plus rémunérateur d'être en CDD, on serait tous en CDD.
Mais on est tous d'accord pour dire que si une entreprise pouvait augmenter les salaires, elle le ferait bien volontiers, ça. Surtout dans la période où précisément vous cherchez des gens qui sont qualifiés et compétents, quand vous êtes en capacité d'augmenter les salaires, vous le faites. Malheureusement, vous pouvez pas toujours.
Et c'est pas les plus précaires et les plus en difficulté qui refusent des CDI. Moi, j'en ai pas vu en difficulté refuser un CDI. Voilà, on parle pas des mêmes personnes, mais ce qui est embêtant sur une réforme comme celle-là, je nie pas qu'il y ait des problèmes et qu'il faille les résoudre, mais c'est que une des choses qu'on demande dans le pacte du pouvoir de vivre, dans lequel, vous savez, il y a à la fois les syndicats, dont la CFDT, la Fondation Hulot, des associations de protection de l'environnement et d'autres organisations de lutte contre la pauvreté. Évaluons tous les nouveaux dispositifs, nouvelles lois sur les 10% les plus pauvres. Si, avant de faire une réforme comme celle-là de l'assurance chômage, on se posait la question du quel va être l'impact sur les plus démunis, je pense qu'on ne prendrait pas les mêmes décisions. Et ça, ça nous paraît autrement plus important que de faire des plans pauvreté.
Et je vous propose d'ailleurs qu'on fasse quel impact aussi sur les entreprises de l'autre côté. Et là, on a vraiment le sentiment dans ce qui a été annoncé sur l'histoire du bonus-malus que on travaille à l'aveugle et qu'on ne sait absolument pas quelles seront les conséquences. On est incapable d'avoir des chiffres. Pourquoi certains secteurs ont été ciblés ? Pourquoi est-ce qu'on prend l'imprimerie, par exemple ?
7 secteurs, donc 34% en gros, c'est ce que j'ai lu moi.
Pourquoi est-ce que l'imprimerie fait partie de ces secteurs ? Qui a décrété qu'il y avait une inflation de contrats courts dans l'imprimerie ? D'où ça vient ? Enfin, franchement, on a des sujets, on se demande d'où sortent ce genre de choses.
Puisqu'on parle,
et on n'a pas les réponses d'ailleurs.
Puisqu'on parle, vous les demandez d'ailleurs ou
bien
pas
sûr
vous
qu'on
les avez demandé.
Bizarrement, on les a pas.
Puisqu'on parlait de CDD, CDI, je voudrais qu'on écoute Laura. Bonsoir, Laura.
Bonsoir.
On vous écoute, Laura.
Mais je voulais revenir sur le fait en fait du monsieur qui a interagi par rapport au CDI. Mais s'il y a des gens qui en fait qui n'acceptent pas leur CDI, c'est par rapport au nombre d'heures. Comment on peut vivre avec un CDI de 25 heures, payer nos factures, eau, gaz, électricité, se nourrir. À la fin du mois, il ne me reste plus rien dans les poches.
Mmh. Ça veut dire, vous par exemple, vous avez un CDI ou un CDD, Laura ? Ou est-ce que vous êtes demandeuse d'emploi ?
Mais là, je suis actuellement demandeuse d'emploi.
D'accord.
Ce qui est difficile de nos jours de trouver un CDI. On peut pas, on est mieux en CDD, même un CDI intérimaire. On peut pas avoir un hébergement. On est dans la précarité. En fait, ils doutent, les agences immobilières, de nous louer des appartements.
Vous, par exemple, j'imagine que vous avez fait vos calculs. Qu'est-ce que vous perdriez? Est-ce que vous savez combien vous perdriez? Comment ça se passerait pour vous si vous acceptiez un CDI à la place d'un enchaînement de CDD que vous faites entre, d'après ce que j'ai compris, des périodes de chômage?
Eh bien, en fait, ce que je perdrais, c'est que je perdrais en fait dans le salaire. En fait, je gagnerais mieux avec le chômage ou les aides d'allocation ou même avec le Pôle emploi, un CDI normal.
Merci beaucoup, Laura, pour ce témoignage. Jean-Hugues Deménil, je comprends que ça vous fasse réagir, ce genre de choses, mais comment peut-on blâmer...
Ce qui me fait réagir, d'abord, c'est la détresse de cette auditrice. Je trouve que c'est ça, le sujet majeur.
Comment peut-on blâmer Laura, qui préfère gagner plus que moi?
Mais on ne peut pas la blâmer, mais on peut blâmer quand même le système qui a été construit, qui fait que cette dame, très justement, dit, finalement, mon intérêt, c'est plutôt d'enchaîner les CDD. Mais après, on ne peut pas pointer du doigt les entreprises en disant c'est de leur faute. Et puis quand même, nous, on a des métiers, prenez des traiteurs, par exemple. Comment vous faites pour embaucher des gens en CDI alors que votre activité, par définition, est une activité qui est cyclique? Quand un jour vous faites une réception pour 30 personnes, le lendemain pour 300 et ensuite vous revenez à 50, comment faites-vous pour adapter votre effectif? Vous n'avez pas d'autre choix que de faire des CDD.
Une remarque, Claire Edon, là-dessus, on retourne au standard.
Moi, je pense quand même que c'est excessivement, parce que du coup, ce qu'on renvoie, c'est une forme de culpabilisation des personnes,
de chacun au fond.
Oui, et de chacun absolument à tout niveau. Et moi, je pense que c'est pas la bonne méthode et c'est pas ça qui nous permettra, parce que le besoin aujourd'hui, il est de développer des emplois, il est pas de stigmatiser
bien
des
sûr,
personnes.
Bien sûr.
Et quand même, si ce système a été mis en place, c'est bien parce que les entreprises, elles avaient énormément. Ça ne fonctionne que parce qu'il y a les allocations chômage derrière. Autrement, les entreprises pourraient pas continuer à faire des CDD comme ça, de un jour, deux jours, ou d'une semaine. Ça ne pourrait pas fonctionner.
Mais
donc,
comment
ce
vous
système
faites
d'assurance chômage est
d'activité.
Absolument indispensable.
Comment vous faites?
Lisser sur l'année, dans ces cas-là. Il y a
mais
bien des entreprises
pas.
Qui le
comment
font,
voulez-vous
qui
faire
le font sur le nombre,
mais
sur
pas,
le nombre
vous
d'heures.
Avez certains secteurs, quand vous êtes dans l'événementiel, quand vous êtes, comment vous faites?
Je pense très honnêtement qu'il y a un large abus des CDD par les entreprises. Voilà. Et nous, ce qu'on voit.
Je me demande si là, c'est pas vous qui renvoyez une image un peu.
Non, mais. Stigmatisant des entreprises.
Absolument.
Ce qu'on voit, c'est que quand même, ce qui permet, quand on est en grande précarité, de se reconstruire, c'est le CDI. C'est pas d'enchaîner les contrats courts. Ça ne permet pas de se reconstruire. Et ça nous paraît le point. Et dans ces territoires zéro chômeur de longue durée, c'est justement ce qu'on propose. Ce sont des CDI.
N'oubliez pas les chiffres globaux quand même. C'est-à-dire que vous avez plus de 70% des embauches qui se font en CDD. Vous avez parfaitement raison là-dessus. Et par contre, dans les gens qui sont employés, ils sont à plus de 85% sur l'ensemble des gens employés en contrat. Ils sont en CDI. Donc le CDD sert aussi, heureusement, dans de très nombreux cas, de marchepied vers le CDI. Et c'est très bien comme ça.
Erwan, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Erwan.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais donner mon sentiment parce que je trouve ça tellement honteux en fait, parce que on parle d'un problème qui est sociétal, qui concerne tout le monde, et ceux sur lesquels on va taper, c'est encore les plus pauvres, les personnes en situation de précarité, les chômeurs. Votre invité l'a dit, c'est 860 euros en moyenne par mois les droits au chômage. C'est en dessous du seuil de pauvreté et c'est encore sur ces gens-là qu'on tape et qu'on va encore paupériser. Et alors qu'on sait que le maintien avec des indemnités permet de sécuriser les parcours et de sécuriser l'accès à l'emploi. Et pourtant, on sait qu'il y a 300 000 chômeurs, votre invité l'a dit tout à l'heure, et 300 000 offres d'emploi à pourvoir, et des millions de chômeurs, et on cesse de le rabâcher pour faire passer les plus pauvres pour des fraudeurs encore. Alors que même si on les pourvoyait, ces 300 000 offres, il y aurait encore des millions de chômeurs, mais c'est quand même sur eux qu'on va taper. Et moi, vraiment, ça me scandalise beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Erwan. C'est des choses qu'on retrouve de la part de gens qui parlent de précarité comme Erwan, mais je repense à notre premier exemple, celui de Fabien, au fond. Et c'est peut-être ça qui choque un peu les gens. On a l'impression que l'esprit, c'est là, les plus pauvres, effectivement, il va falloir ne pas accepter de CDD trop souvent, etc. Mais celui qui était cadre tout à l'heure, à qui on dit, bah oui, mais au bout de 7 mois, ton indemnité va baisser parce que la dégressivité, désormais, ce sera ça. On a l'impression que l'esprit, Jean-Hugues Deménil, c'est pas, je vais t'aider à retrouver de l'emploi, c'est, je vais faire en sorte que tu triches pas avec le système. Est-ce que dans la manière dont on l'amène, même si pourquoi pas réformer? Est-ce que la manière dont on l'amène est pas typiquement un genre de discours qui peut braquer les gens, quels qu'ils soient d'ailleurs, Erwan ou Fabien?
C'est probablement assez maladroit. Du côté effectivement des demandeurs d'emploi, du côté des entreprises, je le répète, en donnant le sentiment que des gens qui créent des emplois en CDD, finalement, ça vaut absolument rien. Donc vous avez raison. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas d'études d'impact, on n'a pas de chiffres précis sur ce qui va se passer derrière. Et encore une fois, plutôt que de donner le sentiment qu'on s'en prend à certaines catégories de la population, on ferait mieux de se mettre autour de la table et regarder globalement le problème. Ce qui a été dit tout à l'heure, par exemple, sur le CDI et le travail à temps partiel. Bien sûr que c'est un sujet. C'est évident que là, il y a un sujet en soi qui mériterait qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve des solutions. Ensuite, que on puisse éviter les abus et dire que les fraudeurs soient punis, bien sûr que oui. J'espère bien qu'ils seront punis, les gens qui fraudent. C'est l'intérêt de tout le monde. Et si on veut préserver un système, il faut que ceux qui fraudent soient effectivement punis. C'est bien évident.
Et je vous rappelle que le Conseil d'État, il y a quelques années, avait dit « la fraude des pauvres est une pauvre fraude ». C'est-à-dire, franchement, c'est pas ça qui va remplir les caisses de l'État.
Allez, je voudrais qu'on écoute successivement. Tiens, on va écouter Albert et puis Paul juste derrière. Bonsoir Albert d'abord.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, donc en fait, moi je me suis retrouvé, je suis au chômage depuis le 31 décembre 2018. Et donc en fait, mon parcours, c'est que j'ai fait quand même 10 ans de service après-vente itinérance pendant 10 ans, donc avec 60 000 km dans l'année, même plus. Et là, donc je me suis retrouvé au chômage à peu près 20 ans dans la formation dans les industries graphiques et actuellement, par exemple, donc j'ai 53 ans et je ne trouve pas. Pourtant, je suis prêt à reprendre la route, c'est-à-dire à partir le lundi, à rentrer le vendredi, à être en déplacement, mais je trouve pas. Alors, je sais pas comment faire. Pourtant, je mérite de bonne volonté. Mais voilà, donc l'ancienne entreprise, ils recherchent par exemple un même poste que je faisais chez eux avant, dans le sud-est, puisque je suis dans le sud-est, et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et le problème, c'est que même pour avoir, au niveau des entreprises, réussir à avoir le DRH, ou on est obligé de passer par une... par des gestionnaires de tête, quoi, des recruteurs, et ça fait un verrou en plus que le chômeur doit réussir à passer pour pouvoir réussir à communiquer correctement.
Pour nous donner une idée, Albert, pour nous donner une idée, vous avez donc 31 décembre 2018, ça fait 6 mois, vous avez eu combien d'entretiens, par exemple, pour quelqu'un qui a un CV comme le vôtre ?
J'ai eu deux entretiens. J'ai eu deux entretiens physiques où je pensais vraiment qu'en janvier j'allais pouvoir trouver, et j'ai été battu en finale par une personne qui, elle, l'annonce était pour le sud-est. Et c'est une personne, j'imagine, plus jeune, je sais pas, hein, bon, sur Paris, qui a été pris. Alors bon, moi j'ai pas compris parce que c'était pour le sud-est, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Moi je dis, ben, écoutez, au revoir, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai provoqué, moi, un entretien par rapport à mon ancienne boîte. Et c'est l'entretien s'est bien passé. Et puis, j'ai toutes les compétences pour. Puisque j'ai fait 10 ans ça, j'ai continué dans les industries graphiques, puisqu'ils vendent du matériel. J'ai en plus 20 ans d'expérience dans les industries graphiques.
Et pourtant, il n'y a rien qui revient. Pardon de vous interrompre, Albert, parce que je voudrais qu'on écoute dans la foulée Paul et on répondra à vos interrogations à tous les deux en même temps. Bonsoir, Paul.
Bonsoir.
On vous écoute, Paul.
Bonsoir. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour la qualité de vos émissions en général. Et j'appelais surtout pour répondre à votre intervenant. Moi, je suis dans beaucoup de cas qu'il a décrit avec beaucoup de généralité et de un peu en allant fortement avec le dos de la cuillère, comme on peut dire. Je suis un jeune diplômé dans l'environnement, la gestion de l'espace naturel, un métier d'avenir, comme ce qu'on m'a informé quand j'ai commencé à faire mes études il y a plus de 7 ans maintenant. J'ai été diplômé, j'ai cherché du travail dans ma région et dans les alentours à cause de mes impératifs familiales qui font que je suis en couple avec une fonctionnaire en poste. J'ai cherché pendant pratiquement 2 ans. On m'a proposé, et j'ai refusé, c'est vrai, des offres de changeurs de pare-brise, de personnes d'aide aux personnes âgées, etc., etc. Donc oui, j'ai refusé. Et puis à Pôle emploi, on a été très surpris qu'un jeune diplômé motivé refuse des offres. Mmh. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a un master en sciences de l'environnement ne voudrait pas changer des pare-brises? Mmh. Puis ensuite, j'ai fini par trouver un CDD en remplacement courte durée là qui va se terminer dans quelques mois. Et je sais impérativement que je ne pourrais pas accepter un contrat long, même si on me le propose, et ce qui va certainement arriver, puisque ce poste est à plus de 2h30 de route quotidienne et aller-retour, et que tous les matins j'ai peur sur la route de m'endormir, tous les soirs aussi, et que une gestion familiale impose le fait que bah, c'est très dur. Et concrètement, voilà, je suis dans cette situation où je sais que je vais devoir refuser. Et je sais que personne ne va le comprendre. Et autour de moi, j'ai peur de le dire. Parce que je sais que je vais être cette personne qui refuse un CDI. Tu te rends compte, on est en un moment comme ça et tu refuses un CDI. Mais comment je peux accepter un CDI qui implique que je passe 2h30 de route par jour, que je ne vois pas ma compagne, qu'elle soit actuellement dans une situation où elle est en licenciement, donc elle a besoin de soutien émotionnel, et concrètement, je pars le matin à 6h30 et je rentre chez moi, bah là, actuellement, je viens de rentrer à 55. Donc, heureusement, j'écoute France Inter sur la route, mais voilà.
Mais, merci de nous écouter malgré tout sur la route, Paul. On a compris ce que vous nous disiez, c'est pour ça que je voulais, merci beaucoup, vraiment, coupler la question d'Albert et celle de Paul, Jean-Hugues Deménil. Tous les deux, Albert a 53 ans, qui a qu'une envie, c'est travailler, y compris sans rentrer chez lui, qui comprend même pas pourquoi subitement sa boîte qu'il a licenciée peut pas le reprendre derrière, alors qu'ils ont besoin à nouveau de la même personne, ce qui est quand même un comble. Et on a Paul avec ses 2h30 de route, et on a l'impression qu'au fond, des exemples comme ça, tout Pôle emploi en est plein, en fait. Il n'y a que des cas particuliers, il n'y a jamais de généralité dans un endroit.
Alors
pareil,
c'est un peu compliqué de sans connaître le parcours de chacun. Effectivement, ce que vous dites là, c'est ces deux personnes ont clairement envie de bosser. Donc la réponse, évidemment, c'est côté Pôle emploi. C'est-à-dire que là, en plus, l'un des deux est dans un secteur, l'environnement, où on recrute à tour de bras. Mmh. C'est le rôle de Pôle emploi de les accompagner, de les aider, de leur présenter des entreprises. C'est clairement scandaleux qu'ils n'arrivent pas à trouver un boulot aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose qui colle pas là.
Allez-y, Claire.
Ce que j'entends chez Paul et Albert, c'est de la souffrance quand même.
Bien sûr.
Deux, c'est très
de la souffrance et de l'incompréhension aussi.
Une immense souffrance de pas être au travail. La question du regard des autres, le regard excessivement culpabilisateur du pourquoi tu te retrouves au chômage et tu vas en plus pas accepter un CDI. Et moi, je préfère le terme de privé d'emploi à chômeur, parce que cette question, c'est beaucoup plus ça. Ces personnes-là, que ce soit Paul ou Albert, sont privées d'emploi. Ils veulent travailler. Et franchement, je redis que c'est ce qu'on voit majoritairement. Et ce qui me fait craindre dans cette réforme des allocations chômage, c'est ce regard stigmatisant. C'est très bien de prévoir de l'accompagnement, mais l'accompagnement, si c'est pour encore plus de contrôle, encore plus d'exclusion des droits, on peut être inquiet là-dessus. Enfin, l'exemple de la Grande-Bretagne, moi, Daniel Bleck, je ne sais pas si vous l'avez vu. On voit bien ce que ça donne, le contrôle. Et celui-là, pourquoi il ne veut pas aller réparer
des contrôles des chômeurs, donc.
Oui, c'est ça,
mais vous avez raison, mais en même temps qu'il faille réformer le système, tout le monde en est d'accord. Et puis, est-ce que la solution, c'est de taxer les entreprises avec un bonus-malus sur ceux qui créent de l'emploi? Franchement, je ne vois pas bien en quoi ça va permettre d'améliorer les choses.
C'est de toucher les plus pauvres et de les rendre encore plus pauvres et encore plus précaires. Je ne pense pas que ce soit la solution.
Jean-Yves Deménil, est-ce que vous dites à Paul, vous, prends-le le boulot à 2h30, est-ce que c'est ce que vous lui conseilleriez sincèrement? Est-ce que vous diriez,
je connais pas
faut
sa
trouver
situation.
Non.
Dans la situation qu'il a l'air de décrire, c'est une vie qui est intenable. Comment voulez-vous faire? C'est extrêmement compliqué. Alors après, si effectivement sa situation personnelle ne lui permet absolument pas de bouger, parce que de temps en temps, vous avez des gens qui acceptent un emploi provisoire dans ces conditions pour remettre le pied à l'étrier dans l'espoir de retrouver quelque chose derrière. Mais là, si l'horizon est fermé de ce côté-là, il est dans une impasse et il faut l'accompagner là où il est, dans le bassin d'emploi où il est, en faisant du coût humain et en l'aidant directement. C'est la seule solution.
Emploi provisoire, c'est toujours très compliqué. On sait jamais, c'est comme les préfabriqués, ça. On sait jamais combien de temps ça dure, l'emploi provisoire, sérieusement. Celui qui fait bouillir la marmite.
Oui, bien sûr. Vous avez raison. En tout cas, ils sont dans une situation difficile. Et encore une fois, je le répète, c'est pas normal d'avoir des gens qui ont envie de bosser aujourd'hui, qui trouvent pas de boulot, alors que du côté des entreprises, une sur deux n'arrive pas à recruter. Il y a quelque chose qui colle pas.
On n'a pas le temps d'entendre Aloïs, mais je vais prendre sa question dans ma voix. Je cherche beaucoup de personnes qualifiées pour des métiers manuels. Et la question est surtout de former ces gens pour les intégrer dans ces métiers plutôt que de plutôt que de les stigmatiser. Le problème de formation en amont, Claire, et donc qui semble être celui d'Éloïs.
Oui, indispensable. Et nous, ce qu'on constate sur les gens les plus éloignés de l'emploi, c'est de la formation en emploi. C'est ce qui fonctionne le mieux, plutôt que d'une formation beaucoup plus théorique à part. C'est ce qui nous paraît le plus important. Et moi, je voudrais redire à quel point une des solutions, c'est l'extension de cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. 10 territoires, c'est pas suffisant. Il faut l'expérimenter maintenant sur plus de territoires. Et ça, c'est une des solutions contre le chômage de longue durée.
Allez, merci beaucoup. On n'aura pas réglé évidemment le problème du chômage, mais merci pour ce débat serein et merci pour tous vos appels. Comme d'habitude, portez-vous bien.